Claire Madle est historienne au Centre français de recherche en sciences sociales, CEFRES, et spécialiste de l'histoire du livre et de la circulation des idées à l'époque moderne. Au micro de Radio Prague, elle revient sur la fin du XVIIIe siècle dans les pays tchèques, une période charnière durant laquelle les pays de la couronne de Bohême, tels qu'on les appelait à l'époque, définissent leur place dans le mouvement de modernisation de la pensée et de la société qui se diffuse dans l'Europe. Les propos de Claire Madle ont été recueillis par Paul Bauer.
Chapitre de l'histoire.
Alors une première question, Claire Madle, quels sont les domaines, les idées des Lumières que l'on retrouve dans les pays tchèques à la fin du XVIIIe siècle ?
Donc la première idée, c'est la nécessité de rationaliser la vie publique. On le voit très bien avec les réformes qu'ont menées Marie-Thérèse et Joseph II dans toute la seconde moitié du XVIIIe siècle. Il y a l'idée de tolérance qui évidemment a beaucoup d'écho dans une société qui a subi la recatholisation et qui, lorsqu'elle pense son histoire, notamment je pense aux historiens qui étudient le hussitisme, est propre à accepter cette tolérance, et c'est Joseph II, encore une fois, qui va l'instituer avec la patente de tolérance qu'il publie en 1781.
C'est une tolérance religieuse principalement ?
Oui, je parle de tolérance religieuse là, et qu'il d'ailleurs concerne certaines églises protestantes seulement, comme les luthériens, mais pas le calvinisme, etc. Ou les juifs, par exemple, son attitude envers la communauté juive. Autre idée qui est acceptée, c'est celle qui vient plutôt alors des Lumières allemandes, de l'Aufklärung, du droit naturel, qui va être mise en pratique dans l'établissement d'un code civil, encore une fois sous Joseph II. Et puis il y a cette grande idée qui sur la force de l'éducation qu'il faut répandre et qui promet le progrès aux sociétés, et qui va amener beaucoup de réformes, notamment sous Marie-Thérèse, dans le domaine de l'enseignement.
Vous avez parlé de droit naturel. De quoi s'agit-il exactement ?
Il s'agit d'une réflexion théorique sur les droits qui sont propres aux hommes, disons, à leur naissance et hors de toute appartenance corporative ou sociale. C'est quelque chose qui, en France, bien sûr, va donner la Déclaration des droits de l'homme, qui est en fait une mise en pratique et une mise en œuvre de ce droit naturel, et qui, dans la monarchie des Habsbourg, par exemple, se concrétise par la patente de suppression du servage.
Vous avez également évoqué la question de l'éducation, qui est un thème central dans les pays tchèques. Comment ça se présente à ce moment-là dans les pays de la couronne ?
Il y a une grande conscience d'un certain retard après la guerre de 7 ans, au milieu du siècle.
Un retard par rapport à qui ?
Par rapport à, on dira, la France et même certaines régions de l'Allemagne. Et il y a donc un effort, on conçoit à ce moment-là qu'il y a un effort à faire pour élever le niveau de l'éducation dans la monarchie des Habsbourg. Et Marie-Thérèse va entamer une réforme systématique de l'école, du plus bas niveau jusqu'avec elle au lycée. Après, ça sera continué, il y aura une réforme des universités. C'est à la fois, disons, un grand débat avec beaucoup de livres publiés sur l'éducation des femmes, beaucoup de publications pour les enfants à cette époque. Ça devient vraiment un rayon de librairie à part entière. Et puis, dans la pratique, donc, des réformes qui cherchent finalement à vraiment rendre l'enseignement obligatoire pour tous les enfants et le rendre possible, cet enseignement. Donc, densifier le réseau des écoles, etc.
Donc la modernisation de l'éducation dans les pays tchèques s'inscrit dans un phénomène plus vaste à l'échelle de l'Europe. En quoi ce système, tel qu'il s'applique dans les pays tchèques, est-il particulier ?
Là où il devient particulier, c'est peut-être sur pour la question de la langue. Pour ce qu'on appelle l'école triviale, l'enseignement se fait en tchèque. Les manuels qui sont choisis, rédigés et dirigés, j'allais dire, à partir de Vienne, sont traduits après en tchèque. Cela est moins vrai pour le niveau du lycée. Et très nettement, les populations tchécophones qui voient revenir leurs enfants les plus doués, qui sont allés au gymnasium, au lycée, les voir revenir germanophones, en fait. Et lorsque Joseph II va vouloir imposer l'allemand comme langue d'enseignement à l'université, là, les réactions vont être fortes. Et ce n'est pas pour rien que juste après Joseph II, en 1791, une chaire de langue tchèque va être créée à l'université de Prague.
Donc la modernisation de l'éducation dans les pays tchèques, est-ce que c'est quelque chose qui accompagne l'éveil national ou qui le déclenche ?
Disons qu'à l'intérieur du débat sur la nécessité d'augmenter le niveau de l'éducation, il y a la question de la langue qui se pose, de prime abord. Et puis ensuite, on se rend compte à la fois d'une façon pratique que effectivement il faut pouvoir garantir que l'enseignement des sous-officiers de l'armée va être assuré dans une langue qu'ils comprennent et que les officiers devraient les comprendre, que les enfants aussi peuvent avoir bénéficié d'un enseignement dans leur langue. Et puis à un niveau plus général, c'est un débat que l'on a vu aussi qui a lieu, disons, peut-être un peu plus tôt dans les pays germaniques et qui est de revalorisation de la langue allemande face au latin et puis aussi face au français, qui cherche à montrer que l'allemand est tout à fait apte à devenir une langue de communication intellectuelle, une langue érudite. Finalement, ce débat passe très bien dans les pays tchèques. Il commence d'ailleurs à être... disons qu'il y a des intellectuels qui sont en pays tchèque et qui participent à ce débat sur l'allemand, qui écrivent des poésies, qui les publient en allemand, qui enseignent l'allemand à l'université de Prague et qui participent de ce mouvement. Et puis ça passe ensuite sur le tchèque.
Et le français comme langue de diffusion des idées des Lumières à la fin du XVIIIe siècle, c'est aussi une époque où l'élite partage un même mode de vie et puis s'exprime ses idées à partir du français. Comment cela se passe dans les pays tchèques à ce moment-là, puisque vous parlez de l'influence croissante de l'allemand comme langue d'expression de la modernité?
Alors le français, c'est une langue qui est pratiquée par une élite, mais une élite, je dirais, de cour à la base. C'est-à-dire, ce sont des aristocrates. Le français a pénétré à la cour de Vienne assez tard, finalement, au cours du XVIIIe siècle. Avant, on trouvait peut-être plus souvent l'italien ou, sous Rodolphe II, l'espagnol. Le français devient une langue de communication aristocratique. Nettement au milieu du XVIIIe siècle. Et effectivement, les idées pénètrent de façon directe, c'est-à-dire qu'il y a une sphère de la très très haute administration qui communique en français et qui donc a une discussion, on va dire, vraiment au niveau européen, ce qu'on appelle les grands commis de l'État. Le français donc est élu et pratiqué, c'est aussi un moyen de distinction sociale. Souvent les non nobles qui comprennent le français sont par exemple dans des emplois au gouvernement de Prague, c'est-à-dire sont en contact régulier avec les aristocrates, mais ça ne s'étend pas au-delà. Ensuite, tout est médiatisé et dans la mesure où il y a énormément de traductions du français vers l'allemand durant tout le XVIIIe siècle, les idées passent d'une façon indirecte par l'allemand.
L'un des principaux phénomènes des Lumières en Europe, c'est la création des opinions publiques. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une opinion publique dans les pays tchèques à ce moment-là ?
Alors, on observe, en effet, oui, on peut dire que oui, puisqu'on observe que naissent à Prague des institutions de la vie intellectuelles et culturelles qui sont véritablement circonscrites, ou du moins leur objet, ce sont les pays tchèques, et leur rayon d'action, c'est les pays tchèques, parfois les pays tchèques, parfois la Bohème. Par exemple, concrètement, c'est le moment où est fondée une société des sciences qui est privée au départ et ensuite qui reçoit l'approbation de Vienne. C'est une société des sciences de Bohème. Les discussions se passent de plus en plus souvent dans des journaux, dans des revues, donc indépendantes, donc des institutions qui sont une institution comme la Société Savante est indépendante à la fois de l'université, à la fois de l'Église et de la Cour. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elles se considèrent véritablement comme bohème. Et puis l'opinion publique, c'est pas seulement des journaux, c'est aussi des lieux de discussion plus ou moins formels, comme les cabinets de lecture, les cafés qui reçoivent tous à cette époque des journaux et dans lesquels on va pour lire les journaux. Et le contenu de ces débats, très souvent, a pour objet ce qui se passe ici, et l'enjeu, c'est de montrer qu'il y a véritablement une vie culturelle et littéraire au niveau des pays tchèques. À côté de la Société Savante, par exemple, est fondée à la toute fin du siècle aussi la future Galerie Nationale, une galerie d'art qui rassemble des œuvres qui étaient dans des collections privées et qui deviennent accessibles notamment à des étudiants ou au public. Et puis l'institution, disons, qui va devenir l'institution nationale et qui naît, elle, au début du 19e siècle, en 1818, c'est le Musée National. Donc cette opinion publique, oui, elle se structure à ce moment-là et elle cherche à montrer et à diffuser disons ce qui se publie et ce qui se pense ici dans les pays tchèques.
Donc un particularisme par rapport à l'Empire, par rapport à l'Europe.
C'est un particularisme, mais il faut bien voir que c'est un phénomène qui a lieu partout. C'est-à-dire que ce qui se passe ici, c'est aussi, enfin, les intellectuels et les érudits qui participent à la naissance de ces revues et de ces institutions plus ou moins formelles ont tout à fait conscience de participer à quelque chose qui se passe ailleurs, pas dans un repli sur soi, mais ils veulent animer le débat qui a lieu aussi ailleurs. Et d'ailleurs, ils sont très très ouverts à tout ce qui est publié ailleurs. La Bohème, à cette époque, importe énormément de livres et de revues, et il est tout à fait normal de trouver dans le café du coin, j'allais dire, des journaux non seulement de Vienne, de Prague et de Brno, mais aussi de la Rhénanie et de l'Allemagne du Nord protestante. Le milieu reste très très ouvert.
Claire Madel, je vous remercie.
Merci à vous.